Le titre du message de ce matin, c'est « Vivre les projets de Dieu pour moi ». Paix, amour, espérance, vivre les projets de Dieu pour moi. On fait tout de suite une lecture dans le prophète Jérémie au chapitre 29, les versets 11 à 13, des versets que vous connaissez pour la plupart. On nous dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Voilà un passage que les chrétiens aiment particulièrement. Un passage qui nous parle des projets de Dieu pour nous. Des projets de paix, cet avenir, cette espérance, cet espoir que Dieu a pour nous. Et on aime communiquer ce passage et ses différents aspects autour de nous. On aime proclamer aussi ces choses pour nos vies. Oui, Dieu a des projets pour ma vie. Oui, il a de la paix. Oui, il a de l'espoir. On aime proclamer ces choses. On aime dire aux gens autour de nous, lorsqu'on partage la bonne nouvelle de Jésus, de dire que Dieu a une destinée pour ta vie. On aime ces choses. Et tout ceci, c'est vrai, mais en partie seulement. Tout ceci est vrai, mais ce n'est pas complet. Le problème souvent, c'est qu'en lisant ce passage, on ne retient que les mots « paix », on ne retient que les mots « avenir », on ne retient que les mots « espérance », mais on oublie dans quel contexte cette promesse a été donnée par Dieu. On veut la paix, on veut le bonheur, mais on ne veut pas le chemin pour y arriver. Moi, je rêve d'avoir un corps d'athlète, mais je ne veux pas faire tous les efforts pour l'atteindre. Je suis ami avec un clown qui représente une grande chaîne de distribution fast-food. Et ces clowns-là, ils ne m'aident pas à arriver, à atteindre ce but d'avoir un corps d'athlète. On va regarder ce matin ensemble, au contexte de ce passage, de cette promesse de Jérémie 29, pour pouvoir la saisir et pour pouvoir nous l'approprier face à nos défis au quotidien. Alors, je veux déclarer ce matin tout de suite que oui, Dieu a des projets de paix, que Dieu a des projets de paix et non de malheur, qu'il a un avenir fait d'espérance pour ta vie. Mais regardons ce que cela signifie réellement. Mon premier point ce matin, les projets de Dieu se vivent à l'endroit où il nous a placés. Et on commence la lecture un petit peu plus haut dans le chapitre 29, à partir des versets 4, et on va lire des versets 4 à 6. « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. » Ce passage est une lettre du prophète Jérémie adressée aux exilés juifs qui avaient été déportés à Babylone en 597 avant Jésus-Christ. Pour rappel, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Il communiquait au peuple, ce que Dieu voulait leur dire. Et l'ambition première du prophète n'était pas de satisfaire la curiosité de l'homme quant à son avenir, mais de lui rappeler la volonté de Dieu quant au présent et l'exhorter à l'accomplir ici et maintenant. Le peuple a été déporté parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils ont trahi son alliance. Et Dieu a permis cette captivité afin que le peuple réfléchisse à ses mauvaises voies et retourne véritablement à son Dieu. Vous savez, il y a toujours des conséquences à nos décisions. Toujours. Et pour nous faire réagir et pour nous faire revenir, Dieu nous laisse parfois nous enfoncer dans nos erreurs et leurs conséquences, afin que nous réalisions notre besoin de lui et que nous puissions revenir à lui pleinement. Ici, Jérémie s'adresse aux leaders politiques et religieux des déportés et il leur indique d'accepter l'idée d'avoir été envoyés à cet endroit où ils ne désiraient pas être et à s'y installer. Dieu les invite à construire, Dieu les invite à habiter le pays, à s'y marier, à faire des enfants, à s'y multiplier, bref, à accepter la réalité et vivre. Accepter la réalité et vivre dans ce contexte. Vous savez, notre vie ne s'arrête pas lorsque les circonstances difficiles s'abattent. Face aux situations désagréables ou pénibles, Dieu nous invite à ne pas baisser les bras, mais à affronter la vie. Vous savez, on peut passer notre vie à chercher à fuir la réalité en nous berçant de toutes sortes d'illusions, ou alors nous pouvons nous appuyer sur Dieu pour affronter et surmonter le quotidien. J'étais dans un camp d'ados en Suisse il y a 15 jours et je discutais avec un jeune. Alors c'est un jeune qui ne doit pas toujours être facile pour les parents, je le conçois. Une semaine avec lui, c'était bien suffisant. Mais il me disait que parfois sa mère, quand elle est exaspérée de son attitude, elle lui disait vivement que Jésus m'enlève. Quelle horreur! C'est ce que j'appelle un suicide évangélique. Vous savez pourquoi? Parce que tous on sait que Dieu ne souhaite pas qu'on se donne la mort, alors quand on est évangélique, on lui demande de nous reprendre. Comme ça, c'est la même chose, mais c'est spirituel. Ça revient exactement au même, un suicide évangélique. Vous savez, dans l'histoire de cette femme, ce n'est pas l'espérance du retour de Jésus le problème. Mais c'est bien le désir de cette femme d'échapper à la réalité. Comme le souligne souvent Denis Morissette, en tant que disciples de Christ, nous ne sommes pas appelés à subir la vie, mais à nous en saisir, à nous saisir des opportunités qui sont là devant nous. Luc Dumont dira « L'appel intrinsèque du croyant n'est pas de survivre sur cette terre en attendant inéluctablement la fin de sa vie. C'est plutôt une assignation solennelle à multiplier ce que Dieu nous a confié en devenant délibérément des catalyseurs de nos destinées, en étant intentionnels dans les choses qu'on met en place pour se saisir de la destinée. Vous savez, la vie chrétienne, oui, c'est les yeux fixés au ciel, mais c'est les pieds dans le cambouis, c'est les pieds sur terre, dans la réalité. La Bible affirme que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'Esprit qui communique la vie, l'Esprit de résurrection, il vit où? Ah, vous êtes convaincus ce matin. Il vit où, cet Esprit? Il vit en nous. L'Esprit de résurrection est à nos côtés. Il est en nous. Et je crois qu'il veut nous revitaliser ce matin face à notre réalité. Il veut nous revitaliser face aux défis qu'on a à affronter chacun pour notre part. C'est Dieu qui a conduit le peuple juif dans cet endroit particulier, de la même manière que c'est Dieu qui t'a conduit ici à Strasbourg. Peut-être certains sont là ce matin en se demandant « mais qu'est-ce qu'ils font ici ?» En se demandant « mais à quoi tout ça, ça mène ?» Tu n'es pas ici par hasard. Et je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre, alors j'aimerais que tu regardes ton voisin et tu lui dises « tu n'es pas ici par hasard ». On a un verbe qui est employé dans ce passage qui nous invite à construire. Et le mot employé ici pour construire, c'est le mot hébreu « bana » qui peut signifier « assurer une suite ». Est-ce que tu cherches à assurer une suite à ta vie ou est-ce que tu cherches la fuite pour ta vie? Est-ce que tu es là pour construire, pour assurer une suite à ta vie ou est-ce que tu cherches simplement à fuir la réalité de ta vie? Dieu a utilisé le contexte de la déportation pour opérer un changement dans les cœurs de son peuple. Cette saison que tu es en train de traverser est peut-être celle où Dieu veut opérer un changement dans ton cœur, peut-être dans le regard que tu poses sur la vie ou sur la direction de ta vie. Ne regarde pas tes circonstances comme un obstacle au projet de Dieu, mais regarde-les comme une opportunité de t'en saisir. Ne regarde pas les circonstances, si difficiles soient-elles, qui s'abattent sur ta vie comme un obstacle, mais regarde comment Dieu, au travers de ces circonstances, peut opérer quelque chose de puissant pour que tu entres dans ce qu'il a prévu pour ta vie. Un auteur inconnu a dit « Aucun chemin ne mène au bonheur. Le bonheur est le chemin. Le bonheur est le chemin. » C'est quelque chose que j'ai dû apprendre pour ma vie et que je dois souvent me rappeler régulièrement. Et puis si je ne le fais pas, il y a ma femme qui est capable de le faire. Pendant longtemps, en fait, j'acceptais pas le moment présent. En fait, j'aspirais toujours à autre chose sans jamais me réjouir du moment présent. Et en fait, c'est horrible de vivre ça parce qu'on n'est jamais heureux. En me projetant toujours dans un futur idéalisé, je passais à côté de ma réalité et de la présence de Dieu au sein de cette réalité, de la présence de Dieu à mes côtés et de ses bienfaits au quotidien. Tu peux sans cesse courir après des choses censées t'apporter le bonheur, mais elles te laisseront toujours une sensation de vide. Il est impossible de satisfaire nos cœurs et ses convoitises. Blaise Pascal, le célèbre penseur français, disait « Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. » Cessons de courir après le vide et construisons avec Dieu afin de marcher dans les projets de paix pour chacun d'entre nous. Les projets de Dieu pour nos vies ne sont atteignables que dans la mesure où nous acceptons de marcher sur le chemin que Dieu trace pour chacun d'entre nous. Amen. Dans le passage, on lisait le passage de départ, « Vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Le cœur représente nos priorités. Si Dieu est notre priorité, si Dieu est celui qui nous anime, qui anime chaque matin quand je me lève, alors on va expérimenter sa présence, on va expérimenter sa paix et on va pouvoir entrer dans ses projets. Luc Dumont dira encore, aussi longtemps que c'est lui, en parlant de Dieu, qui établit notre calendrier et qu'il nous accompagne dans l'accomplissement de sa mission, nous pouvons avoir une espérance sans borne, une espérance sans limite. Quand je suis dans les plans de Dieu, je peux être rempli d'espoir parce que je suis là où Dieu me veut. Amen. Deuxième point ce matin, les projets de Dieu se vivent en construisant la paix. On poursuit la lecture au verset 7. Et Dieu dit par la bouche de Jérémie, « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Et dans l'autre passage, dans notre passage de départ, on parlait de projet de paix et non de malheur, ce que Dieu a en réserve pour nous. Jérémie explique ici que bien plus que d'accepter la condition dans laquelle le peuple se trouve, le peuple doit activement rechercher le bien-être des citoyens de Babylone. Autrement dit, chercher le bien-être de leurs bourreaux. Chercher le bien-être. Le terme employé ici pour l'expression bien-être, c'est le terme shalom. Voilà pourquoi, peut-être dans certaines versions de vos Bibles, vous trouvez rechercher la paix de la ville où je vous ai envoyé en captivité. Le shalom, ça désigne l'harmonie parfaite. Ça désigne une complète réconciliation, un état de plein épanouissement dans tous les domaines, que ce soit physique, émotionnel, social et spirituel. Parce que l'ensemble des relations avec le shalom sont justes, elles sont parfaites et elles sont remplies de joie. Le shalom représente ce que Dieu aime voir et ce que Dieu veut voir. Avant que l'homme se détourne de Dieu, tout ce que Dieu avait créé était en parfaite harmonie, dans ce shalom, dans une interdépendance où toutes les choses étaient imbriquées les unes avec les autres. Tout était noué, tout était lié ensemble. Et en se détournant de Dieu, quand l'homme a décidé de prendre son destin en lui-même, en laissant de côté ce que Dieu lui demandait, comment Dieu voulait le conduire, l'harmonie, elle a été détruite à cause du péché. Et tel un poison, ce péché a déformé, a corrompu le shalom que Dieu avait mis en place à la création. Et c'est pourquoi Jésus a offert sa vie à la croix, afin que cette corruption qui est entrée, cette déformation du shalom de Dieu par le péché, Jésus est venu pour briser la puissance. Jésus est venu pour que le shalom soit restauré pour tous ceux qui décident de placer leur foi et leur confiance en lui. Jésus dira en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix que Jésus donne dans ce passage, c'est le mot grec « airene » qui est l'équivalent du « shalom » en hébreu. Don Carson, expert au Nouveau Testament, dit que sur le plan individuel, cette paix assure le calme au sein du trouble, assure le calme au cœur du trouble, dissipe la peur. C'est la paix qui protège le cœur et la pensée contre les assauts de l'anxiété. Elle gouverne ou arbitre les décisions du cœur, dans le cœur des enfants de Dieu pour maintenir l'harmonie entre eux, pour maintenir ce shalom. La paix que Christ communique ne concerne pas seulement notre relation verticale avec Dieu, mais notre relation horizontale avec ceux qui nous entourent. Il appelle les croyants à être des artisans de paix, des constructeurs, des bâtisseurs de paix. Jacques 3, 17 à 18 nous dit « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » La découverte de cette grâce de Dieu, de ce cadeau de Jésus-Christ qui donne sa vie pour chacun d'entre nous, pour rétablir cette paix dans nos vies, ça fait découler une vie de justice dans le cœur du disciple de Jésus. Parce que le disciple est en train de prendre conscience que, en tant que peuple de Dieu, nous sommes une réponse de Dieu pour panser les blessures de ce monde en souffrance. Le peuple amené en captivité était missionné par leur recherche du bien et de la paix pour Babylone. Ils étaient missionnés à manifester la véritable paix que beaucoup de gens autour de nous cherchent, mais que seul Dieu peut donner. Dieu a qualifié son peuple pour être ses pieds et ses mains en action sur terre, pour pouvoir communiquer sa paix, pour pouvoir distribuer ce shalom de Dieu. Vous savez, nous sommes tous en tant qu'individus, nous sommes tous sauvés en tant qu'individus, mais nous ne sommes pas sauvés pour vivre individuellement. On est tous sauvés personnellement, tous avons besoin de faire cette démarche avec Dieu, mais nous ne sommes pas sauvés pour vivre tout seuls. Nous prenons part à la restauration divine. Dieu veut nous rendre participants de sa nature avec lui, acteurs de cette restauration qu'il veut faire dans le monde. Nous sommes appelés à être le corps de Christ, d'être les témoins missionnels. Alors missionnel, ce n'est pas un gros mot, c'est le mot mission plus relationnel qui ont été regroupés. Nous sommes en mission pour rebâtir les relations, être des ministères de réconciliation dans les relations. Nous sommes appelés à être témoins de cet évangile qui nous a restaurés personnellement et cet évangile qui peut se communiquer à ceux qui nous entourent et communiquer la vie de Dieu qui transforme des vies encore aujourd'hui. Amen. Nous sommes appelés à être acteurs avec Christ, acteurs de son œuvre de restauration sur toute chose, jusqu'à ce qu'il revienne pour achever le travail parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement au XXIe siècle ici à Strasbourg? C'est premièrement, on voit une recherche de paix relationnelle. Où est-ce que j'en suis dans mes relations? Et j'aimerais juste pour illustrer ça, une prière de Saint François d'Assise qui résume ce que nous sommes appelés à vivre au sein de nos relations. Cette prière s'appelle « Seigneur, fais de nous des instruments de paix ». Et il dit « Là où il y a la haine, que nous mettions l'amour. Là où il y a l'offense, que nous mettions le pardon. Là où il y a la discorde, que nous mettions l'union. Là où il y a le doute, que nous mettions la foi. Là où il y a l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où il y a le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie. » Et ensuite, il dit « Ô Maître, que nous ne cherchions pas tant à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. » Dieu nous dit, stop un petit peu tous tes intérêts pour toi-même et tes petites émotions, comment elles ne sont pas bien à l'intérieur de toi. Mets-toi, agis. Mets-toi, pose des actions. Je dis souvent aux couples, mais l'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Où est-ce que j'en suis dans cette démarche de pardon? Peut-être dans les situations qui sont là autour de moi, peut-être ça va être avec un collègue de travail, peut-être c'est avec mon conjoint, peut-être c'est avec mes enfants. Est-ce que je suis en position de m'appuyer sur la grâce de Dieu et de communiquer cette paix au travers du pardon que je vais pouvoir manifester? Est-ce que là où il n'y a pas d'espoir autour de moi, je veux communiquer cette espérance que seul Dieu peut donner? Cette prière de Saint François d'Assise rejoint un petit peu notre passage de Jérémie où on voit que Dieu demande à Jérémie aussi aux Juifs de l'époque de prier et d'intercéder pour la ville, pour que les gens, les Babyloniens, soient touchés par Dieu et interpellés par ce shalom qui est en train d'être vécu par le peuple de Dieu au sein de l'endroit où Dieu où les a placés. Vous savez, je crois que nos actions peuvent susciter l'interrogation. Et si le Saint-Esprit vient souffler là-dessus, alors des gens peuvent être complètement bouleversés par votre mode de vie qui est différent, parce que la grâce de Dieu vous accompagne, parce que la grâce de Dieu vous porte et même vous supporte. Souvent moi d'ailleurs, elle me supporte. Dieu est capable de faire des choses merveilleuses avec les hommes et les femmes que nous sommes dans ce lieu ce matin. Il est capable de faire des grandes choses avec chacun d'entre nous. Vous savez, cette prière, elle est vraie pour nos différents niveaux de relations. Je crois qu'on est invité à prier pour nos relations professionnelles. On est invité à prier pour nos relations dans l'Église. On est invité à prier pour nos relations avec nos amis, notre famille, nos conjoints. Le véritable amour nous pousse à l'action. Comment cette prière-là peut se mettre ? Peut-être que les uns et les autres, on peut vivre des moments difficiles au travail. Je partageais ça avec quelqu'un cette semaine. Mais même si ton patron est en train de te trahir, toi, sois fidèle. Qu'il voie que tu es conscient qu'il te trahit, mais toi, tu demeures intègre. Tu demeures à continuer à vivre les valeurs du royaume. Tu continues à vivre ce shalom. Parce que là où on te fait du mal, toi, tu fais la différence par le bien. On est invité à ça, frères et sœurs. Ensuite, on l'a vu, comme le shalom, c'est une harmonie parfaite, ça nous parle aussi de la véritable justice. D'avoir cette soif de vivre la véritable justice. D'ailleurs, le passage de Jacques qu'on a lu tout à l'heure nous fait remarquer que le fruit de la paix, le résultat de la paix, le résultat du shalom, c'est cette recherche de justice. Timothy Keller a écrit un super livre et je suis arrivé ce matin et j'ai vu que l'équipe qui vend les livres, ils l'ont mis en premier. Et ils ne savaient pas que je prêchais sur ça ce matin, mais j'aurais dit c'est excellent, ça m'encourage parce que c'est ce que je partage ce matin avec l'Église. Et il dit dans ce livre, pratiquer la justice, c'est vivre d'une manière qui favorise une société au sein de laquelle les êtres humains peuvent s'épanouir. Plus précisément, c'est se rendre là où le tissu du shalom s'est effiloché, où les membres plus faibles de la société passent à travers les trous et les colmater. C'est tout ce qui se produit lorsque nous prêtons attention aux besoins des pauvres et que nous y répondons. Dans ce livre-là, Tim Keller souligne trois types de choses qui amènent la pauvreté dans une société. Et un de ces types, c'est l'oppression. Le deuxième, c'est les désastres naturels. Et le troisième, c'est les négligences morales et personnelles. Alors l'oppression, on peut donner un exemple. Ça peut être par exemple un système judiciaire favorable aux puissants. Aux États-Unis, on dit « mieux vaut être riche et coupable que pauvre et innocent ». Donc ça, c'est un peu l'exemple. C'est un système qui met en avant les riches au détriment des pauvres. Et c'est un petit peu ce qui se passait en Israël avant la captivité. C'est-à-dire qu'on faisait bénéficier un peu les amis, on laissait les pauvres pour compte, on donnait des faux jugements, etc. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Israël en captivité. Mais dans notre société, vous savez, on n'est pas mieux. Donc on est en train de vivre ces choses. Un système judiciaire favorable aux puissants, mais ça peut être aussi un taux de prêt exorbitant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait payer des intérêts à des gens qui n'ont pas d'argent. Ce qui fait qu'on les enferme dans des systèmes où jamais ils s'en sortent. Taux de prêt exorbitant, mais aussi des salaires injustement trop bas. Ensuite, ça c'est les oppressions. Ensuite, il y a les désastres naturels qui nous parlent des circonstances naturelles qui peuvent plonger une société ou même maintenir des gens dans la pauvreté. Par exemple, une famine qui s'abat, une situation d'handicap, quelqu'un qui a un handicap, ben, il vit avec cette difficulté sur sa vie. Ça peut être une inondation, ça peut être un incendie, ou alors même des gens qui n'ont même pas la faculté intellectuelle pour prendre des bonnes décisions pour leur vie. Des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'être sous tutelle, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas poser des bonnes actions pour leur vie. Alors, ce n'est pas un péché, c'est un handicap. C'est un handicap qui est là sur leur vie. Et enfin, il y a les négligences morales personnelles, où là, on parle clairement du péché, comme par exemple la paresse. Des gens sont pauvres parce qu'ils sont paresseux, ou parce qu'ils ont des comportements individuels orgueilleux et irresponsables, etc. Donc, la pauvreté, ce n'est pas juste un aspect ou un autre. C'est l'ensemble de ces choses qui sont imbriquées. Et c'est pour ça que nos politiques n'y arrivent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on écoute la gauche traditionnelle, les causes profondes de la pauvreté sont les forces sociales qui dominent les pauvres. Les préjugés raciaux, les privations économiques ou encore le chômage et les inégalités. Et puis si on écoute la droite traditionnelle, elle nous dit que la responsabilité vient à cause de l'éclatement de la famille, de la perte des vertus morales, de la maîtrise de soi et puis de la discipline parce que les gens sont feignants. Donc voilà, ça c'est un peu l'écho qu'on a, puis nous on est contrebalancé là-dedans. Or, La Bible nous montre que c'est l'ensemble de ces choses qui crée un contexte de pauvreté. Vous savez, Jésus était profondément moral. Hein, il dénonçait le péché, que les gens avaient besoin de se situer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir changer. Mais il était aussi profondément social. Il portait un intérêt particulier pour les pauvres, pour ceux qui n'avaient plus de voix, pour qu'on puisse les accompagner et les relever. Donc Jésus était les deux, représentait les deux. Et il nous invite, nous, en tant que corps de Christ, à la prise en compte des gens dans leur globalité. Leur besoin de salut à cause du péché, c'est la priorité, mais aussi la prise en compte de leurs besoins au quotidien. Donc, en tant que croyants, nous devons prendre ces différents facteurs ensemble. Tim Keller dira encore, ce qu'il faut pour reconstruire un quartier pauvre va bien au-delà d'une politique publique ou des programmes sociaux. Ce relèvement nécessite la reconstruction des familles et des communautés ainsi que des vies individuelles. On a besoin de prendre la personne dans sa globalité, dans son ensemble. Vous savez, s'il y a différents domaines où nous, en tant que chrétiens, là où on en est dans notre vie, on ne peut pas agir directement, par exemple la corruption des dirigeants, nous, à part mettre un bulletin de vote pour sanctionner, on ne peut pas agir directement sur le cœur des gens. Par contre, il y a des domaines où nous, en tant que chrétiens, nous pouvons agir. Paul dira en Romains 12, 18, « S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. » Et le mot « paix » qui est là, c'est toujours cette notion de shalom, de cette recherche de justice et d'équité. Vous savez, on ne peut pas tout changer, mais on peut tous changer quelque chose. Il y a des choses qui dépendent de nous. Dieu ne nous demandera pas des comptes pour les choses qui ne nous concernent pas, mais il en demandera pour ce qu'il a mis entre nos mains et que nous aurons mis de côté et que nous aurons négligé. Alors, on va prendre un exemple concret de recherche de justice. Comment un patron chrétien peut-il exercer une forme de justice et lutter contre la pauvreté individuellement ? Déjà, en ne cherchant pas à tirer un bénéfice maximum de ses produits, en majorant le prix de vente tout en baissant les salaires au maximum. Il doit donc accepter de faire moins de profits en diminuant les prix de vente, en augmentant les salaires, pour que chacun puisse en retirer un bénéfice. Alors bien sûr, avec équilibre, on n'est pas là pour couler la boîte, mais d'accepter de recevoir un petit peu moins pour que l'équité se manifeste, pour que la justice se manifeste. J'aime l'exemple du commerce équitable, c'est quelque chose qui me travaille en ce moment. Et avec Anne-Laure, on discute de ça souvent et on se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas peut-être aller acheter nos légumes plus chers chez un producteur local, ou profiter de choses où il y a du commerce équitable. C'est-à-dire que la personne qui travaille soit payée normalement pour ce qu'elle a fait, et pas continuer à encourager cette société consommatrice où on essaye de tirer tout au prix le moins cher, et puis ça découle et ça entraîne la pauvreté derrière, etc. C'est une vraie réflexion. Qu'est-ce que le shalom de Dieu m'appelle à faire individuellement ? Jusqu'où ça m'emmène d'être un disciple de Jésus qui a reçu sa grâce, et comment moi je peux véhiculer cette grâce dans ma vie au quotidien, et ce, dans tous les domaines. Accepter de mettre mettre moins de côté, mais de dépenser pour que ça rapporte pour quelqu'un d'autre derrière. C'est toute une réflexion avec laquelle on peut se poser ce matin. Qu'est-ce que c'est que cette recherche de justice ? Je crois que d'agir dans cette attitude, ça va susciter l'interrogation et ça va nous donner l'occasion de présenter ce qui anime nos cœurs à ceux qui nous entourent. Quand les gens vont dire « Mais pourquoi tu agis comme ça ? Tu pourrais gagner bien plus si tu faisais ça. » Et que tu expliques le raisonnement derrière. Que tu expliques que ton Dieu t'a demandé de l'aimer en premier, mais d'aimer ton prochain. D'aimer celui qui est à gauche, qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite. De dire que ton but, ce n'est pas de remplir ta petite vie d'égoïste, mais c'est d'investir dans la vie des autres pour que la justice, pour que l'équité, pour que le shalom de Dieu soit vécu, manifesté, et que nous soyons contributeurs de cette restauration que Dieu veut faire dans le monde. Paul dira encore en Romains 8, 19, « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Vous savez, les fils de Dieu, c'est nous. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que ma vie manifeste le royaume ? Est-ce que par ma vie et mes actions au quotidien, ma gestion de mes finances, je manifeste que je suis un citoyen du royaume de Dieu, que je suis un ambassadeur, c'est-à-dire un envoyé dans un autre pays, représentant un autre pays, en l'occurrence représentant Dieu dans la société où Dieu nous a placés. Vous savez, je crois que nous avons les moyens concrets d'être des agents de justice et de manifester le royaume de Dieu qui vit en nous. Et ce, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit pleinement réalisé quand Jésus reviendra. C'est pourquoi à l'EPI, nous voulons accompagner les gens dans ce qu'ils peuvent vivre. C'est pourquoi on accompagne 120 familles chaque mois avec de la nourriture, avec des vêtements, mais aussi qu'ils peuvent bénéficier de cours d'initiation à la langue française. Parce que si nous désirons secourir les gens, nous voulons aussi les équiper et les conduire vers l'autonomie. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament, et le Lévitique en particulier, nous explique que les propriétaires des champs ne devaient pas moissonner tout le grain que les champs avaient produit, mais ils devaient laisser des épis, sur les tiges et des grappes sur les ceps de vigne pour que les pauvres puissent les cueillir eux-mêmes et subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, sans faire de mendicité. Et je crois qu'il y a toute une leçon qui est là derrière. Faire moins de profit, mais permettre à quelqu'un d'autre d'être au bénéfice. C'est exactement ce que nous voyons dans les Actes des Apôtres. Personne ne manquait de rien. Ceux qui avaient beaucoup amenaient beaucoup, et les autres étaient au bénéfice, et du coup, tout le monde avait quelque chose. Vous savez, nous, on croit que si on doit répondre aux situations de détresse urgente, on a des situations, semaine après semaine, des gens qui viennent à l'église, qui n'ont rien, et on donne un colis d'urgence, on essaye de pallier à l'urgent. Nous ne voulons pas créer de dépendance où les gens ne se prennent pas en main. C'est pourquoi il est important de rapidement permettre aux gens de se prendre en main, et pour ça, on va les accompagner. Le shalom, c'est l'équité et la justice. C'est permettre de rééquilibrer les injustices et non pas juste de faire de la charité chrétienne. Dieu ne nous a pas appelés juste à donner un petit peu aux pauvres pour soulager notre conscience. Il nous a appelés à investir pour permettre à l'équilibre de se remettre, pour revenir à l'état qu'on était avant la chute. C'est-à-dire une situation d'harmonie qui comprend les différents aspects du quotidien. Enfin, on croit que l'évangile doit être annoncé parce qu'une personne qui sort de la pauvreté sans Jésus, ça sera un riche en enfer. Nous recevons également dans nos bureaux, semaine après semaine, des gens qui sont en recherche spirituelle et à qui on partage ce que Jésus a fait pour leur vie, combien ils ont besoin de saisir sa grâce au quotidien. Mais c'est aussi pour ça qu'on veut aller plus loin dans l'accompagnement et être une bénédiction pour le quartier qui nous accueillera dans un futur proche. Que notre église, et ça c'est notre cœur, soit un lieu de rencontre. Que notre église soit un pont entre les cultures et qui est en recherche d'accompagner les gens dans un bien-être physique, émotionnel, social et spirituel. C'est une de nos priorités, prendre les gens dans leur globalité. On veut être une église qui est tournée vers la ville, comme ce passage de Jérémie nous y encourage. Être tournée vers les besoins de la ville, en répondant à cet appel de Dieu de diffuser le shalom, de diffuser la restauration, de diffuser l'harmonie pour quiconque en exprime le besoin. Vous savez, on ne veut pas ériger des murs pour protéger notre église du monde et de ses influences. Mais nous croyons que nous avons été appelés à être le sel de la terre, à donner de la saveur à cette société, à donner de la saveur à notre ville, à donner de la saveur à notre département, à donner de la saveur à notre pays. Nous voulons bâtir des ponts entre les gens pour que l'Église brille au sein de cette ville et expérimente les projets de paix et non de malheur que Dieu en réserve. Tim Keller dira encore, lorsque la société se désintègre, lorsqu'elle encourage le crime, la pauvreté et l'éclatement familial, elle ne connaît plus le shalom. En revanche, quand les gens partagent leurs ressources et s'unissent pour que les services publics fonctionnent bien, que le quartier soit sûr et bien entretenu, que les écoles éduquent correctement et que les affaires et entreprises s'épanouissent, tout le quartier bénéficie du shalom social. Lorsque les gens aisés investissent auprès de ceux qui possèdent moins, le quartier profite de la prospérité civique et du shalom social. On va arriver à mon dernier point qui est la conclusion. Je vais inviter l'équipe à se rapprocher. Ne laisse pas l'ennemi te voler les projets de Dieu pour toi. Ne laisse pas l'ennemi te voler les projets de Dieu pour toi. En effet, et c'est la suite, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. Vous savez, l'ennemi cherchait par toutes sortes de moyens à détourner le peuple hébreu de sa mission. Et il utilisait pour ça de faux prophètes qui leur annonçaient des paroles que le peuple voulait entendre. Il leur annonçait une paix sans effort, il leur annonçait une restauration sans repentance, il leur annonçait de pouvoir commettre le péché sans conséquence. Merci Eric. En fait, ils étaient séduits par leurs propres rêves et illusions. Et je crois que le danger pour l'Église contemporaine, de nos sociétés occidentales particulièrement, c'est de continuer à nous laisser bercer par le doux flot de notre prospérité matérielle et de délaisser l'appel à rechercher le bien, la paix de ceux qui nous entourent. Nous sommes appelés à être des porteurs d'espoir. Dans sa grâce, Dieu nous a communiqué sa paix afin que nous la communiquions autour de nous. Je te pose la question ce matin, qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur ? Est-ce que Dieu t'appelle et t'interpelle sur certains sujets ? N'étouffe pas cet appel, cette voix à l'intérieur de toi, ou tous les bruits de sirène autour de toi qui te proposent une réussite sans effort et la victoire sans combat. Je crois que c'est aujourd'hui que nous préparons demain. Dieu nous a attribué une mission, une portion de terre que nous devons travailler, sur laquelle nous devons travailler. Luc Dumont encore dira « Mon champ, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Mais mon futur dépend de ce que je fais de mon champ dans le présent. » Qu'ensemble, nous puissions entrer et nous saisir de ces projets de paix. Alors oui, ce matin, je ne vous ai pas dit « Dieu va te donner l'argent, Dieu va te donner la réussite, Dieu va te donner tout ça. » Mais ce que je crois, c'est que lorsque tu entres là, dans ce que Dieu, là où Dieu t'a conduit, là où Dieu t'a placé, tu vas vivre cette paix, tu vas vivre cette harmonie, tu vas vivre ce shalom de Dieu, mais en étant acteur de la transformation, parce que Dieu nous a appelés à être participants de sa nature divine. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui a envie d'entrer dans ses plans? Est-ce qu'on peut ce matin se positionner et dire, c'est vrai, peut-être j'ai souvent regardé à moi-même, à mes petits besoins, à mes petites envies, mais Dieu m'appelle à quelque chose qui me dépasse. Et si c'est notre cas, alors qu'on va prendre ce chant « Je te donne mon cœur », qu'on puisse se mettre debout à notre place, peut-être comme une armée pour dire « Oui Seigneur, je veux faire la différence au sein de ma génération. Oui, je veux me saisir de ces projets de paix, de cet avenir fait d'espérance et je veux être communicateur de ta vie. » Je crois que Dieu veut nous utiliser. Alors que les ténèbres s'épaississent, Dieu veut diffuser sa lumière et sa lumière va passer par chacun d'entre nous. Alors si c'est votre prière ce matin, de prendre ce chant qui dit « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai, c'est à toi, Jésus. » Alléluia.